That's love. What is love?
Radio G. www.radio-g.fr.
Assiette pour trois, producteur, consommateur, environnement, en AMAP, un engagement. Une émission proposée par l'InterAMAP 49. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin de notre programme puisque nous entamons la 10e émission de Assiette pour 3, 10 sur 20. Le thème choisi aujourd'hui est un petit peu énigmatique. Il s'agit des Nima. Qu'est-ce qu'un Nima? Mes invités, Agathe et Thomas, vont se charger d'éclairer notre lanterne. Bonjour Agathe.
Bonjour Francine.
Bonjour Thomas.
Bonjour Francine.
Alors, lequel des deux veut répondre?
Eh bien, je veux bien me lancer pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Donc, le terme Nima est apparu assez récemment par le biais de sociologues, de chercheurs en agronomie, donc Kevin Morel, pour qualifier des personnes qui sont non issues du milieu agricole, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait le choix non seulement de revenir à la campagne vivre, dans un cadre naturel, essayer de déconnecter des problématiques citadines, mais qui ont de surcroît fait le choix d'en vivre, c'est-à-dire d'épouser le métier d'agriculteur, d'agricultrice.
De changer d'orientation professionnelle.
Tout à fait. Donc, comme c'est mon cas personnellement.
Bien, tu veux bien te présenter un peu plus, Agathe, puisque tu as
oui,
la parole.
Oui, bien entendu. Donc, Agathe Hilleré, je viens d'avoir 40 ans. Je suis maman de 2 enfants, mariée, installée donc depuis peu dans une petite ville qui fait une centaine d'habitants à Pruyé, en bordure de Mayenne, installée depuis 2 ans. J'ai fait le choix de prendre un virage à 180 degrés après une carrière de 15 ans à officier dans des métiers de direction territoriale en collectivité et plus récemment un poste de direction dans une grosse structure culturelle en plein centre d'Angers.
Et avant d'aller plus loin, on va donner la parole à Thomas qui va se présenter également.
Oui, alors de nouveau bonjour. Pour ce qui me concerne, je m'appelle Thomas Martin, j'ai grandi à Paris, en ce qu'on pourrait qualifier dans une zone totalement hors sol. J'ai 4 enfants, je suis marié, je suis installé en polyculture élevage dans une commune qui s'appelle Brun-sur-Lothion et dans un cadre familial.
Bien. Donc, parcours de vie professionnel qui, à un moment donné, a pris un virage à 180 degrés, comme tu viens de dire, Agathe. Mm-hmm. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ta vie d'avant ou expliquer qu'est-ce qui a motivé ce virage à la quarantaine?
Ma crise de la quarantaine, effectivement, ma crise professionnelle a été déclenchée par... une sorte de saut dans le vide, c'est-à-dire que j'avais déjà réfléchi à une reconversion professionnelle, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, qui au bout d'une quinzaine d'années cherchent un sens donné à leur carrière. Et là, en fait, plutôt que de franchir moi-même le pas, j'y étais quelque part poussée. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je retrouve un poste, je reste dans ma vie confortable ou bien, voilà, je vis mon rêve. Et ce rêve était de revenir à la terre, de revenir aux sources de ce qui fait notre vie. Voilà. Et en ça, une lecture qui est très importante, qui m'a aidée à franchir justement ce cap et à sauter dans le vide quelque part, c'est une lecture d'un ouvrage de Pierre Rabhi, qui s'appelle la sobriété heureuse. Voilà, donc ça avait cette envie de se dire, maintenant, 40 ans, je veux la vivre, cette sobriété heureuse.
Mmh. Bravo. Et toi, Thomas ?
Alors moi, dans mon cas, le virage s'est fait un petit peu plus tôt, vers la trentaine. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle dans des groupes internationaux en gestion du personnel. Ce sont de grosses structures dans lesquelles, globalement, les gens qui sont en gestion du personnel sont dans des services où il y a une spécialisation, soit le recrutement, la gestion des compétences, la paye. Dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une vision plus globale et plus généraliste. Par ailleurs, j'étais en recherche de sens par rapport à ce que je faisais, en m'interrogeant sur à quoi réellement je servais et quelle était ma place dans la société. Voilà. Il s'est trouvé que le virage s'est fait à un moment donné où j'étais dans une impasse professionnelle et j'ai eu la chance d'avoir une opportunité qui s'ouvrait dans le cadre de la ferme de mes beaux-parents, qui était une possibilité pour moi qui s'ouvrait.
Oui, parce qu'il se trouve que ton beau-père était sur le point de prendre sa retraite et qu'il n'avait personne pour reprendre la ferme, en gros, je crois.
Mon beau-père était en phase de décroissance sur la ferme, avec le projet de convertir ce qu'il avait en cheptel, notamment, dans plutôt du foncier immobilier. Mais il était plutôt dans l'idée d'une cessation, en tout cas dans le cadre familial. Loin de lui l'idée que son gendre parisien puisse imaginer et avoir l'audace de s'installer sur une ferme alors que lui-même n'avait absolument aucune connaissance agricole.
Oui, mais il me semble me souvenir que ton beau-père n'était pas non plus complètement issu du milieu agricole quand il a commencé il y a 40 ans.
Oui, il y a une similitude en termes de parcours. Ceci étant, il avait quand même grandi en milieu rural, oui, avec un père lui-même qui était boucher-herbager, donc il avait grandi au contact des animaux. Et dans le cadre familial, il y avait déjà un certain nombre de terrains agricoles qui étaient présents.
D'accord. Donc ce virage étant pris, tu m'as dit Agathe que pour toi la quarantaine c'était vraiment le dernier moment parce que ça correspondait aussi à des possibilités d'aide financière.
Oui, c'était tout à fait un concours de circonstances puisque toute la réglementation agricole, notamment sur les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, a pris pour date butoir cette date des 40 ans. Donc moi, ça s'est fait comme ça. Mon parcours professionnel, il y a eu cette rupture à 39 ans. Il me restait qu'un an pour tout mettre en place et éventuellement pouvoir espérer bénéficier de ces aides et s'installer comme jeune agricultrice. Mmh. Ce qui, par rapport à une IMA, affirme aussi un positionnement, une posture, c'est-à-dire ce n'est pas qu'un rêve de bobo qui se voit vivre dans le Larzac avec quelques moutons. C'est vraiment un parcours bien réfléchi et une installation qui s'inscrit dans un cadre établi, administratif, institutionnel, avec tout le parcours du combattant qu'il y a derrière.
Une vraie nouvelle profession.
Oui,
fait.
Tout à fait. Mmh. Oui.
Bien, tout ça est très intéressant. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous expliquer quelles sont les démarches à partir du moment où vous avez décidé, allez hop, le virage est pris, on se lance dans quelle direction, on se lance comment, on fait quoi?
Alors, en premier lieu, je pense qu'il faut à la fois aller vite, parce que les années perdues ne se rattrapent pas, et en même temps, il faut concrètement prendre le temps. Alors prendre le temps, ça veut dire d'une part et avant tout se former.
Oui.
Quand on est NIMA, on arrive avec un niveau de compétence technique la plupart du temps qui est quasiment égal à zéro. Voilà. Se former, ça veut dire passer par des centres de formation agréés qui permettent notamment d'avoir les aides dont parlait Agathe, mm-hmm, mais qui permettent également d'un point de vue technique de faire face aux imprévus et au quotidien de la vie d'une ferme. Voilà. Ensuite, après la partie formation, il y a la partie administrative. Et cette partie administrative est un passage obligatoire. Et même s'il est long et compliqué, c'est, à mon avis, une nécessité pour être prêt à être bien installé. C'est-à-dire que si on ne passe pas cette épreuve administrative, ça me paraît très compliqué, compte tenu de l'évolution de l'agriculture et notamment du volet administratif, d'arriver dans la durée à pouvoir tenir.
Bien, tu nous as essoufflé là. On va se passer un petit peu de musique pour souffler. Donc, on va écouter Lojo, au temps qui passe.
Par les feuilles roulées de l'année dissipée, je te souhaite l'air magnifique matin à ta mesure d'ombre. Charité faite à demain, je donnerai plus de rimes au temps qui passe, au temps qui passe. J'ai essayé l'archer sur l'arbre, mes anges bleus dans un instant de l'air, j'ai cinq bonheurs, cinq mystères. Par les pinceaux des calligraphes attaché sur des arobases, je vends pour une poignée de neige tous mes chiffons des heures brûlées. Ma dernière monnaie, je la lance sur ce filon de belle chance. Au temps qui passe, miette du pain de l'univers. Au temps qui passe, en arabesques indoucies.
Reprendre avec des histoires pratiques et concrètes. Racontez-nous un peu votre parcours, l'un et l'autre, l'un ou l'autre.
Eh bien alors, pour ma part, il faut imaginer que ce type de reconversion nécessite quand même de prendre un petit peu de recul, de faire le point également avec sa famille pour être sûr que ce choix professionnel corresponde aussi à un choix de vie quand on est en couple. Et puis, il est important aussi, à mon sens, de prendre conseil auprès d'amis, mais également de professionnels du milieu, pour avoir une idée un peu plus précise de la viabilité du projet qu'on mature.
Dans quoi on se lance.
Oui, je pense.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'évoquer Thomas. C'est-à-dire que sans un appui familial et amical très, très intense, ces démarches-là sont difficiles à entamer seules. Il y a l'aspect psychologique qui est primordial. Il faut vraiment se sentir soutenu dans ce, j'évoquais, dans ce grand saut dans le vide. C'est un peu notre parachute.
Oui,
voilà.
C'est ça,
pour éviter le crash,
sinon c'est la peur de l'inconnu, quoi.
Oui, voilà. Oui, pour éviter le crash, il faut absolument être le plus entouré possible. Et puis également avoir une vision claire de ce qu'est ce métier. Moi, j'en avais pas j'en avais une idée très vague en dehors un peu du potager du dimanche,
une idée un peu romantique, quoi.
Très romantique, oui. C'était un peu Marie-Antoinette et ses moutons. Donc d'expérimenter. Sur le terrain, il y a des possibilités de stages en immersion qui sont offertes par Pôle emploi. Il faut vraiment se rendre compte sur le terrain, pourquoi pas pratiquer du woofing, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut vraiment avoir une idée de ce que c'est le métier de paysan, difficultés liées aux problèmes de dos, aux problèmes climatologiques, la pénibilité du travail. C'est très important de l'expérimenter avant de faire son choix. Et cette année de formation, notamment, moi j'ai suivi un cursus de 10 mois pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et à l'occasion des 9 semaines de stage qui vous sont proposées, on se rend vraiment compte sur le terrain, à côté de maraîchers expérimentés, de ce que c'est que ce travail.
Je crois par ailleurs que, pour rebondir par rapport à ce que dit Agathe, ce qui est important aussi, c'est que dans le cadre du lâcher-prise, dans la mise en œuvre de ce projet, ceci doit se faire progressivement, c'est-à-dire qu'un retour en arrière doit être possible. Dans mon cas, ça s'est fait grâce à un congé individuel formation que j'ai réussi à obtenir avec mon précédent employeur et qui m'a permis de maturer et de me former également par le biais d'un brevet professionnel. Pendant 18 mois, j'avais un confort qui me permettait de revenir en arrière si pour X ou Y raison, je sentais que j'arrivais dans une impasse.
Ça, c'était plutôt confortable.
Très confortable.
Ça n'était pas ton cas, Agathe, si j'ai bien compris.
Le retour en arrière n'était pas possible. J'étais sur une fin de contrat de travail. Donc, c'était le saut dans le grand bain.
Il fallait y aller, quoi.
Il fallait y aller, oui.
Bien. Donc, vous avez parlé de ces 10 mois de formation. Ça se passait où pour vous ?
Moi, j'ai suivi ma formation agricole au centre de promotion horticole à la Minitrée, donc une quarantaine de minutes d'Angers.
Et pour ma part, c'était au CFPPA de Segré.
CFPPA de Segré, ça veut dire ?
Centre de formation professionnelle agricole, voilà.
D'accord.
Mais il y a plein d'autres formations possibles. Oui. Hein. Ça, ce sont des formations diplômantes. Je suis pas sûre de refaire ce choix-là si je n'avais pas dans un processus de demande d'aide, etc. Parce que, en fait, pour la demande des GIA, vous êtes obligé d'avoir un diplôme agricole d'État reconnu. Il y a plein d'autres formations ouvertes. Je pense à des écoles de permaculture en Normandie, les formations aux fermes de Sainte-Marthe. Il y a beaucoup de formations possibles.
Plus alternatives.
Plus alternatives, oui.
Peut-être qu'à partir du moment où il y a besoin de faire un emprunt à la banque, par exemple, il y a aussi peut-être besoin de présenter des diplômes, non ?
On est encore dans une tradition, c'est vrai, très centrée sur le diplôme en France. Hein. Ça, c'est tout à fait exact. Après, il faut bien choisir. Moi, je n'avais pas l'opportunité d'avoir une mobilité très importante du fait de contraintes familiales. Après, il y a de nombreuses écoles qui existent en France. Il y en a une qui est assez réputée, Aureux, en Bretagne. Si on a le choix et si on est mobile, il faut vraiment prendre le temps de choisir la bonne école. Avec les bonnes pratiques un peu alternatives, agroécologiques.
Voilà. Qui te conviendraient mieux, par exemple.
Tout à fait.
Ce qui me paraît important à dire, c'est que l'offre est multiple et qu'elle peut s'adapter à tout type de profil, à savoir qu'il y a des formations sur site, il y a des formations à distance et il y a également des formations en alternance. Voilà, donc l'offre est vraiment large en France et les possibilités pour rebondir ou changer de cap sont aussi nombreuses par le biais, par exemple, comme c'était mon cas dans le cadre de congés individuels formation, mais aussi par le biais de Pôle emploi. On a cette chance-là en France, donc il ne faut pas hésiter.
Et Pôle emploi vous propose des stages dans des fermes ou des choses comme ça ou pas ?
Alors, je ne sais pas, mais ce que propose Pôle emploi en revanche, et ce dont je suis sûr, c'est que pour des gens qui se posent des questions quant à une réorientation professionnelle, ils peuvent être à la fois considérés comme chômeurs et salariés, mettons à mi-temps, sur l'activité qui pourrait les intéresser à terme.
Voilà, donc c'est quand même. Pour voir si ça leur convient ou pas.
Et Pôle emploi complète.
Au niveau du salaire.
Au niveau du salaire.
Oui. Je dirais qu'ils sont plus facilitateurs. Plus facilitateur dans les démarches de création d'entreprise du fait de certains dispositifs avec des noms alambiqués, l'ARS, l'ACRE, etc. Mais par contre, ce n'est pas eux qui vont vous orienter sur tel type de formation. Ce n'est pas vraiment leur boulot. Et certains conseillers, surtout en milieu citadin, sont vraiment très éloignés de ce genre de,
ça se comprend,
de reconversion. Hein. Ils tombent un peu de leur chaise quand vous leur dites... Voilà, j'étais administratrice de théâtre et je veux devenir fermière paysanne. Bon, ils commencent par vous rigoler au nez.
Je veux dire que ça surprend un peu, finalement. Bon, vous ne la voyez pas, mais Agathe est une petite jeune fille toute menue, donc l'imagine en train de pousser sa brouette, conduire son tracteur. Et pourquoi pas ?
Parce que je lui ai dit que c'était un des trois plus beaux métiers du monde.
Oui.
C'est Saint-Exupéry qui le disait. Il y avait aviateur, écrivain, agriculteur. Je dis aviatrice, bon, c'est un peu trop aventureux. Écrivain, pourquoi pas plus tard, mais agriculteur, voilà.
Maintenant tout de suite.
C'est mon choix.
Voilà, maintenant tout de suite.
Et ça l'a décidé, ma conseillère.
Et puis c'est un métier qui a de l'avenir, parce que quelles que soient les mutations humaines que l'on vit aujourd'hui, l'homme, pour le moment, continuera de se nourrir si possible, trois fois par jour.
Oui, se nourrir, oui, mais comment va être préparée notre nourriture ? C'est là la grosse question.
Ça fait partie des questions.
Voilà.
C'est un beau défi pour notre génération.
Voilà, c'est un peu pour ça aussi que les AMAP se sont mises en place, parce que les consommateurs veulent toujours être libres de leur du choix de leur alimentation. Et on sent bien venir que à la place du paysan qui traite sa vache, on va y mettre des robots, que la nourriture va tomber aussi automatiquement dans la gamelle de la vache, etc. Donc il y a quand même, il me semble, encore des choix possibles. Et j'espère que pour la génération de vos enfants, ça sera toujours le cas.
On l'espère.
Oui, en tout cas, on va agir pour. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette expérience? Si vous avez déjà tiré des leçons, avec le petit recul que vous avez chacun.
Alors, sur les leçons, ce qui me semble important, c'est, enfin en tout cas moi, ce que je retiens de cette expérience pour le moment, c'est de savoir prendre le temps, voilà. Oui. Savoir prendre le temps pour réfléchir, pour exister, prendre conscience des choses, pour faire de bons choix. Voilà, le métier d'agriculteur, à la fois il faut réagir vite et en même temps cette notion de temporalité, c'est-à-dire d'être présent à ce qu'on est, me paraît fondamental. Et ça, c'est au niveau de l'agriculture aujourd'hui quelque chose qui est primordial et pour moi qui est moteur. C'est-à-dire que certes, il y a beaucoup de choses à faire, il y a une charge de travail qui est énorme, mais il y a la possibilité le matin de se regarder dans la glace et de se dire, en tant qu'agriculteur, je contribue à quelque chose de positif pour la société et de constructif. Et j'offre une autre voie ou un autre modèle ou quelque chose de différent. Mais voilà, la possibilité d'offrir autre chose.
D'être fier de ce que tu fais.
D'être fier de ce que je fais, mais de contribuer aussi, de mettre ma petite pierre à l'édifice ou ma petite graine pour être plus...
Petite goutte d'eau du colibri.
La petite goutte d'eau du colibri.
Voilà, on est tous sur la même longueur d'onde, à ce que je vois. Et toi, Agathe ?
Alors moi, j'avais deux leçons à tirer, alors sur le plan général et un peu sur ce qui touche à l'agriculture. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a finalement, quand on en parle, beaucoup de gens qui voudraient se lancer et voudraient franchir le cap. Et la difficulté en France actuellement, c'est la pénurie de terres. Donc là, il y a un vrai combat à mener pour débloquer des terres agricoles, qu'elles soient bonnes ou un peu moins bonnes, peu importe, mais trouver du terrain à cultiver pour des porteurs de projets. Ça, c'est un vrai défi. Il faut vraiment se mobiliser pour ça.
Terre de Liens s'occupe de ça,
Il y a Terre de Liens, il y a beaucoup d'associations, les syndicats agricoles, confédérations paysannes qui se mobilisent pour ça. Mais c'est un vrai combat. Il faut mobiliser les élus locaux sur ces problématiques-là. On se retrouve avec des hectares de zones artisanales qui sont en déliquescence. Et voilà, c'est autant de terres agricoles.
Des prisons, des avions.
Alors, je dis pas que voilà, il faut des services publics. Mais
des aéroports,
voilà, il y a des projets, voilà. Attends, on y revient.
Y a voilà. Quand même,
donc, le nerf de la guerre, c'est ça. Oui, c'est, on ne va ça, pas manquer oui. de vocation, ça j'en suis persuadée, et oui. on en est témoin aujourd'hui. Mm. Mais c'est vraiment maintenant comment trouver des outils, parce que la première des choses, c'est d'avoir de la terre.
Oui, bien
voilà.
sûr.
Où trouver la terre.
Bien sûr.
Oui, peut-être la deuxième chose qui me vient à l'esprit, il y a trouver la terre et ne pas rester seul. Voilà.
Oui.
C'est important dans le cadre de ces choix-là, ne pas rester seul d'un point de vue personnel, c'est-à-dire dans le cadre familial ou amical, mais également d'un point de vue professionnel. Ce sont des projets qui nécessitent un accompagnement précis, donc il faut bien s'entourer également d'un point de vue professionnel.
Oui, un bon maillage autour de soi. Oui.
Oui.
Qu'en est-il de votre revenu par rapport à votre travail, par exemple ?
Sur un plan réglementaire et juridique, quand on sollicite la DGA, on a obligation au bout de 5 ans d'un revenu agricole équivalent à un SMIC. Donc ça, c'est effectivement un objectif qui nous est imposé. On sait très bien, et des études récentes le prouvent, notamment la thèse de Kevin Morel sur les micro-fermes, que les revenus agricoles sont encore bien loin de ça et qu'il y a encore beaucoup de paysans, notamment en bio, qui vivent avec 700 à 800 euros par mois. Alors certes, ils ont une qualité de vie, hein, ils ont de la nourriture saine à disposition pour eux et leur famille, mais ça reste un vrai problème de société. Le travail du paysan n'est pas correctement rémunéré à sa juste valeur.
Thomas ?
Je ne peux que confirmer, l'heure de travail de l'agriculteur en termes de rémunération n'a rien à voir avec tout type de secteur aujourd'hui en France, et c'est un vrai problème pour la pérennité des structures.
Le problème, c'est que le travail du paysan n'est pas compté à l'heure. On entend toujours les paysans dire « Ah ben non, moi je compte pas mes heures ». En fait, qu'est-ce qui fait le salaire du paysan? C'est le revenu de ses produits. Et on sait bien que les produits agricoles actuellement sont en chute libre pour la plupart. Je pense au lait, par exemple, ou aux céréales. Comme ils sont indexés sur la valeur du marché, il n'y a rien de fiable.
Alors c'est une des difficultés d'un modèle traditionnel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise des charges donc à l'entrée du système, puisqu'ils n'ont pas d'autonomie dans leur système globalement. Donc il faut acheter les aliments, il faut acheter les pesticides, il faut acheter voilà. Et puis également à la sortie, en amont, il n'y a pas non plus la maîtrise de la marge.
Oui.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est un problème. Puis l'autre difficulté aussi que je vois, c'est que les gens qui nous accompagnent, puisqu'il y a des gens qui nous accompagnent d'un point de vue technique sur nos fermes, eux-mêmes ont une grille de lecture en termes de revenus qui n'est pas la même. C'est-à-dire que à l'heure de travail qu'ils nous facturent, il n'y a pas d'équivalent entre nous ce qu'on touche et puis
lui ce qu'il demande pour
effectuer sa prestation. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vraie difficulté.
Oui, en espérant que quelque chose va évoluer dans... On espère.
C'est à souhaiter. Ce que je souhaiterais, c'est qu'au niveau de l'ensemble des aides européennes qui peuvent exister, y compris sur la bio, elles soient moins importantes et que moins importantes dans le sens où ça représente moins du revenu de l'agriculteur. Aujourd'hui, ce sont ces aides essentiellement qui font le revenu de l'agriculteur. Mmh. Alors c'est compliqué.
Oui, et puis c'est une fragilité pour vous dans l'exercice de votre profession, d'être dépendant d'une subvention, d'être dépendant d'un
marché.
Suivant
les secteurs, c'est plus ou moins à nuancer, parce que comme les aides sont encore calibrées sur un certain nombre d'hectares.
Effectivement.
Bon, en maraîchage, on est un petit peu moins favorisé, peut-être.
Ah bah, très clairement, en maraîchage, oui.
Donc, mais on mise tout sur le circuit court et l'autonomie commerciale.
Voilà, c'est une autre façon. Je pense qu'il y a beaucoup de NIMA actuellement dans le milieu agricole, et c'est quelque chose qui est venu aussi récemment, de se réapproprier la vente de ses propres produits. La transformation et la vente de ses propres produits, c'est essentiellement ça qui fonctionne en AMAP d'ailleurs. Et on a vu arriver en AMAP des paysans qui nous proposaient un produit, puis qui en ont apporté un deuxième, puis un troisième, qui au départ avaient des céréales, les ont transformées en farine, et puis sont allés jusqu'à faire du pain. Et donc tout ça, c'est de la valeur ajoutée pour leur ferme.
Pour boucler la boucle, oui, effectivement, en fait, on parlait d'une manière générale, mais je pense que ce qui, au niveau des NIMA, est essentiel, et au niveau des projets des NIMA ou des projets qui peuvent présenter ces capitales, c'est que globalement, on a tous, non pas des projets similaires, mais des projets qui tournent autour de quatre leviers qui sont très importants, qui sont l'autonomie de nos fermes, qui sont la capacité de créer de la valeur ajoutée, qui sont également la capacité de proposer pour notre environnement un impact qui soit positif, voilà, avec des petits moyens.
Et bravo, c'est très bien.
Et moi, je voulais conclure en disant, l'ENIMA, faites-vous confiance.
Oui. Voilà,
il y a beaucoup de moments de doute quand on ne maîtrise pas un domaine. Voilà, il faut s'écouter et se faire confiance, parce que c'est le bon choix. C'est le bon choix.
C'est votre bon
Retenu.
Choix.
C'est notre bon choix.
Merci beaucoup Agathe, merci beaucoup Thomas.
Merci bien.
Merci.
Le coq de Alain. Et son âne, on est dans les fermes. Donc, la prochaine émission, ce sera le 13 février autour des certifications, la certification EcoCert, Nature et Progrès, entre autres. Ce sera aussi la semaine des radios associatives, donc vous entendrez beaucoup parler pendant toute cette semaine de Radio G et des autres radios associatives. Et pour ce faire, le 13 février, Alain Le Gall, qui sera l'animateur, recevra du public dans le studio. Donc on vous dit à dans 15 jours. Bonne semaine.